Je vous invite à ouvrir votre Bible, donc dans la première épître de Jean. Et nous sommes arrivés au chapitre 4. Et déjà au chapitre 2, et puis dans les chapitres donc 1, 2, 3, les deux thématiques que nous rencontrons au chapitre 4 ont déjà été abordées. Et Jean revient dessus. Et les deux thématiques principales sont la vigilance et l'amour. Au chapitre 2, il disait « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Et au verset 27, à la fin, il dit « Demeurez en lui, c'est-à-dire en Christ, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, cette onction. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Oui, il y a vraiment deux semeurs. Et nous avons besoin, à l'aide de ces épîtres de Jean, ou celle de Pierre, ou celle de Jude, de bien réaliser que dans le champ de nos cœurs, de nos pensées, dans le champ de l'Église, puisqu'ici, Jean s'adresse aux Églises, il dit qu'il y a un vrai combat, un combat de semeurs, une concurrence de semeurs. Il y a le Saint-Esprit qui sème la parole de Christ pour transformer nos vies, pour nous guérir, pour nous ressusciter, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce que nous trouvions Christ, nous étions dans les ténèbres, des ténèbres faites de mensonges, de fausses croyances, de pièges de Satan, de manières de penser, de raisonner, et qui nous détruisaient, qui nous tuaient. Et le Seigneur nous a fait passer de la mort à la vie. Et il veut que nous tenions ferme dans les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés. Il dit « Demeurez en lui ». Parce qu'il y en a qui veulent vous égarer. Et le résultat, c'est que finalement, on peut dévier et perdre les trésors que le Seigneur veut nous donner au travers de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Et le résultat, c'est que on peut avoir, lors de l'apparition du Seigneur, lors de son avènement, une certaine gêne de le rencontrer. Pourquoi une certaine gêne ? Parce que on se sera peut-être éloigné de lui. Et dans toute la dimension où on s'est éloigné de lui, parce qu'on s'est peut-être laissé égarer, et parce que le message d'égarement aura trouvé un terrain pour pousser. C'est toujours ça. Il y a un message, il y a un mensonge, il y a une tromperie de Satan. On se souvient, rien n'est neuf sous le soleil, c'est toujours Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit ? Une parole trompeuse. Mais parce qu'elle trouve un terrain un peu fragile, un peu sensible, qui finalement est prêt à accueillir, j'ai envie de dire, une autre vérité qui peut-être l'arrange, qui lui fait espérer d'autres choses. Des espérances toujours trompeuses et toujours illusoires. Tout ce qu'on gagne avec le péché, c'est la mort. On croit toujours qu'on gagne quelque chose, on y perd toujours. Et lorsque le serpent s'approche d'Ève, il lui fait miroiter tout ça. Il dit, mais vous serez comme des dieux. Et Ève a un terrain où effectivement, peut-être elle aimerait connaître quelque chose, peut-être de supérieur. Et dans son identité, le péché a placé quelque chose qui fait que elle serait pas inintéressée d'être comme Dieu. Et malheureusement, eh bien, Satan va ruiner sa vie par ce mensonge. Et il veut aujourd'hui ruiner nos vies, nos familles et les églises dans ce sens. Alors, nous lisons maintenant 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà une première chose, Jean a déjà parlé. Lorsqu'on touche à l'identité de Jésus-Christ, et ça c'est quelque chose de fondamental, lorsqu'on a affaire à des gens qui sont croyants, oui, mais de quelle sorte de croyance s'agit-il ? Qui est Jésus-Christ pour eux ? Et dans l'histoire passée et présente, l'identité de Jésus-Christ demeure au cœur vraiment de... au cœur de la distinction entre les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Quelle est cette identité ? C'est de pouvoir déclarer que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Dieu lui-même qui s'est fait homme. Et il y a des gens qui achoppe avec ça. Et lorsque d'une manière ou d'une autre, on ne veut pas déclarer et croire que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme, qui s'est incarné, alors en fait, on est dans cet esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, Antéchrist veut dire contre Christ et à la place de Christ. Ça a les deux significations. Quand on touche à cette identité de Jésus qui est Dieu et qui s'est fait homme, alors tout s'écroule. Et on part dans des tas de directions qui ne nous conduisent pas au salut, mais qui nous conduisent à la mort. Et nous avons toujours à être en garde à propos de l'identité de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on rencontre des gens qui disent être croyants, n'hésitons pas à leur demander, mais qui est Jésus-Christ pour toi ? Qui est Jésus-Christ pour toi ? Et si quelqu'un peut dire, mais Jésus-Christ, pour moi, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour se mettre dans ma condition humaine pour pouvoir me sauver. C'est Dieu qui est venu pour mourir, pour porter mes péchés, et je l'ai pris comme mon sauveur, comme mon berger, pour le suivre, pour lui obéir, parce qu'il est le Dieu véritable. Alors voilà une confession de quelqu'un qui sait et qui croit qui est Jésus et qui a décidé de lui donner sa vie et de le suivre. On continue la lecture. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, premièrement, on a dit l'identité de Jésus-Christ, c'est fondamental. N'hésitez jamais, jamais, jamais à dire « Oui, mais qui est Jésus-Christ pour toi ?» Vous savez, quand on parle aux gens, souvent on va partir dans plein de directions, de sujets religieux, de valeurs, on va débattre sur plein de choses. Et les gens nous emmènent dans des tas de sentiers, de conversations religieuses, et on cherche à témoigner. Et on peut être d'accord sur certaines valeurs, etc. Bon. Mais le fondamental, s'il y a une question à poser, s'il y a un sujet de conversation à être au cœur, c'est qui est Jésus-Christ pour toi? Et c'est là vraiment que nous devons, je crois, consacrer notre énergie lorsque nous témoignons. Parce que lorsque nous témoignons, une personne est sauvée lorsqu'elle peut confesser de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, il s'agit d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou si ne sont pas de Dieu. Et le premier critère étant l'identité de Jésus-Christ ici, il y a maintenant une deuxième perspective. Et la deuxième perspective, c'est est-ce que lorsqu'un enseignement est donné, lorsqu'une doctrine est proposée, lorsque une vision spirituelle est avancé, puisqu'il y avait des gens qui venaient proposer, prêcher dans les églises, qui venaient discuter avec les gens. Est-ce que ce qui est proposé est accepté par le monde ou n'est pas accepté par le monde? Là, il est dit: eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on se souvient que Satan est le semeur qui veut semer contre les vérités libératrices de Jésus-Christ. Et la parole de Christ ne va pas dans le sens du prince de ce monde. Mais par contre, on veut nous amener à ressembler au monde. On se souvient du début où il nous était dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde ne peut pas être ami de Dieu. Et là, en fait, c'est intéressant pour nous de réfléchir lorsque il y a des choses qui sont proposées, certaines visions. Est-ce que ça va dans l'esprit du monde ou pas? Autrement dit, est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que ça s'accorde bien avec la société dans laquelle on vit? Est-ce que ça va dans le même sens? Et nous devons être vigilants parce qu'effectivement, on peut avoir des visions et des discours sur la foi, sur la vie chrétienne, etc., qui passent bien avec le monde. Le monde, quand on parle comme ça, il nous dit « Ah, j'aime bien cette église, j'aime bien, ah, ça, cet évangile, j'aime bien. » Ben, si le monde aime bien, en général, c'est pas un très bon signe. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur sera toujours accueilli à bras ouverts par les gens du monde qui n'ont rien à faire avec l'Église et qui trouveront toujours que ça c'est une bonne manière de penser, ça c'est une bonne manière de croire. Et ils diront « Amen ». Il y a un vrai combat de Satan. On se souvient de l'image de ce sous-marin. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le travail de Satan, c'est d'essayer de faire... Donc nous, c'est ce sous-marin qui est dans l'eau, qui est dans l'élément du monde. Il est dans la mer, dans l'océan. Mais il n'est pas de la même nature. On respire à l'intérieur du sous-marin, on peut respirer parce qu'on n'est pas dans l'eau, mais parce que c'est l'air, c'est le souffle, c'est l'esprit. Mais si l'eau rentre dans le sous-marin, c'est la catastrophe. Si le monde rentre dans le cœur du croyant, dans l'Église, alors on va être gagné au monde et l'eau va remplir. Et on ne sera plus, comme disait Jésus, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ben, si l'eau rentre, on devient de plus en plus du monde. Et dans la manière de penser, dans les doctrines, dans les visions, c'est la même chose. Le monde va essayer de faire pénétrer dans l'Église sa manière de penser. Et nous devons, à cet égard, être vigilants. Nous poursuivons le chapitre. Tout d'un coup, il revient à l'amour. On en reparlera. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qui demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, dans le combat entre la vérité et le mensonge, le garde-fou, c'est l'amour. Parce que sinon, dans le combat entre la vérité et l'erreur, s'il n'y a pas l'amour, c'est la guerre. C'est la chasse aux sorcières. Et le chrétien n'est pas appelé à être en guerre. Il est appelé à maintenir et à demeurer dans la vérité, dans les enseignements qu'il a reçus. Mais il n'est pas appelé à débusquer autour de lui et à combattre l'esprit du mensonge et l'esprit de l'erreur, l'esprit du prince de ce monde tout autour de lui. Et ça, dans l'histoire, il y a eu bien des événements tristes au nom de la religion où on a pu mettre en prison, on a pu mettre au bûcher, etc., des gens parce qu'ils n'étaient pas dans ce qu'on estime être la saine doctrine. Ça, c'est pas le combat du chrétien. Alors, on peut repenser à l'Église catholique, on peut repenser à la réforme protestante aussi. Mais ce n'est pas le rôle du chrétien que d'imposer à une société la façon de penser de Dieu et la façon de vivre à laquelle Dieu nous invite. C'est au sein de l'Église que nous devons être vigilants et proclamer la vérité. Et autour de nous, eh bien, le Seigneur nous demande d'être en paix avec tous les hommes. Et ça, c'est important. Par exemple, dans une autre épître, Paul dit: je vous écris au sujet de ce que vous m'avez demandé par rapport à ce que je vous avais dit de ne pas fréquenter les débauchés. Il dit: je ne vous ai pas demandé de couper les relations avec ceux qui vivent dans la débauche d'une manière catégorique et nette. Il dit: autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Il dit: non, je vous ai demandé de couper des relations avec ceux qui se nommant frères, affirmant être des enfants de Dieu, sauvés, nés de nouveau, avec le Saint-Esprit, vivent dans la débauche et ne voient absolument aucun problème à cela. Il dit: c'est avec cela que je vous dis de couper les relations, de pas dire: non, il y a un vrai problème entre toi et moi. Tu dis que Jésus-Christ règne dans ton cœur, tu dis que le Saint-Esprit habite en toi, et t'as pas de problème avec ce péché ? On en revient à l'épître de Jean. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas. Il ne pratique pas le péché. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il chute, on peut chuter. L'épître de Jean nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier. On peut chuter, on peut pécher. Mais faire du péché une pratique habituelle et normale en disant, mais il n'y a pas de problème avec ça, je suis chrétien et puis je vis dans la débauche, eh bien l'apôtre Paul disait non. Là, si c'est un frère, si c'est une sœur, il a besoin de reconnaître entre la vérité qui libère et le mensonge dans lequel Satan l'a pris. Et il arrive que des chrétiens soient, j'ai envie de dire, endoctrinés par Satan, soient pris dans tout un mécanisme de pensée. Alors qu'est-ce qui se passe ? On le redit, il y a deux semeurs. Il y a Christ qui sème la parole, il y a Satan qui sème le mensonge. Satan sème le mensonge par des faux prophètes, par des faux apôtres. Il a ses orateurs qui sont animés par des esprits. Satan n'est pas tout seul, il y a des démons. Et c'est pour ça qu'il dit « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Et Satan, il a son planning, il a ses grandes lignes, il a ses marottes. Il a dit là, la France occidentale, tiens, sur quoi je vais pouvoir l'attaquer, la France occidentale ? Je vais commencer par la population française, pseudo-catholique, mais pas du tout sauvée. Et puis, je vais attaquer. Et puis, ces évangéliques là qui sont revenus à la parole. Il va falloir mettre un coup de pied là-dedans. C'est trop près de la vérité. Trop engagé pour Jésus-Christ. Trop sanctifié. Il va falloir atteindre le cœur et faire rentrer un autre esprit. Alors ça part toujours de l'extérieur. Ça part de la pensée du monde. Et on entend des modes de pensée à la radio, dans les émissions, etc., chez des auteurs, chez des écrivains, dans des débats télévisés, etc. Ça commence comme ça. Bon. Au départ, c'est à l'extérieur. Puis petit à petit, il va y avoir une sorte de dialogue avec certaines entités religieuses. Et puis petit à petit, on va lui donner une forme qui passe bien là où on veut l'amener. Et même certains chrétiens peuvent finalement, comme disait Paul, je crains que vos cœurs ne soient séduits comme Ève. Et vous êtes tombés dans le piège. Et puis après, c'est compliqué. Puisque comme ici, dans l'épître de Jean, il y a des modes de pensée qui sont issus de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'Antichrist, mais qui sont véhiculés dans l'Église. Alors, on peut comprendre certaines choses. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, moi je comprends, dans notre société, pourquoi est-ce que le législateur a fait voter des lois pour la protection, par exemple, des personnes homosexuelles. Je le comprends parfaitement. Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant longtemps, ces personnes étaient pourchasser, maltraiter, parfois tuer. Et il y avait toute une haine qui déferlait dessus. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est la caractéristique du croyant. Comment faire face à une personne qui a été prise au piège de l'homosexualité sans la détruire et l'accabler? Ça, c'est possible si nous nous aimons les uns les autres. Mais le monde n'est pas dans l'amour, puisque l'amour est de Dieu. Alors on ne peut pas réformer les cœurs. Je prends un autre exemple. Des jeunes femmes qui tombent enceintes sans être mariées. Longtemps, et encore dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, c'est la honte absolue, cette jeune fille est mise en dehors du foyer, fréquemment on l'a rejetée du foyer, elle se retrouvait à la rue, et sans moyens pour subsister, et elle était mise au banc de la société, elle ne pouvait plus faire un mariage, c'était vraiment le rebut de la société, oui ou non? Pourquoi? Parce que l'amour est absent. Cet amour dont Jésus a fait preuve lorsque, avec la femme adultère, les autres étaient là à lapider, Jésus a dit, n'importe quoi. Et on peut prendre des tas d'exemples, et là on est en train de parler du vivre ensemble. Le vivre ensemble. Et dans une société, le vivre ensemble, c'est compliqué parce que on est pécheur et parce que l'amour pour l'autre ne domine pas. Pourquoi est-ce qu'en France, on a voté des tas de lois sociales de solidarité? Mais c'est une bonne chose qu'on les fait. C'est pour soutenir le plus faible et le plus démuni. Normalement, est-ce que ça ne devrait pas venir, cette solidarité du cœur? Normalement, la solidarité, elle est censée provenir de l'amour. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est compliqué d'obliger une société à aimer. Comment amener toute une société à aimer l'autre en action et en vérité? Par la force de la loi. C'est tout. Si bien que notre solidarité, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont aussi solidaires que le nôtre, mais cette solidarité, ça ne vient pas d'un amour qui vient du cœur, en fait. Ça vient de la force de la loi. Pourquoi? Parce que il faut lutter contre notre égoïsme, il faut lutter contre... Il y a des tas de choses. Et ça, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut le faire. Alors, combattre pour la vérité, il faut. Mais en même temps, il y a cet amour. Et c'est l'amour qui va nous préserver de finalement de dérives et de comportements qui, au nom de la vérité, au nom du combat, de la défense de la vérité, on va devenir dur, intraitable. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, si l'on conclut, on retient deux choses. Soyons vigilants. Il y a un vrai combat où Satan veut semer son ivraie dans l'Église, dans nos vies, dans nos familles, pour nous faire perdre les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Il veut nous égarer. Il veut qu'on ait la honte d'être éloigné du Seigneur. Il veut nous faire perdre nos trésors. Alors nous devons être vigilants et avoir du discernement, discerner l'esprit qui est derrière. Nous méfier lorsque ça va dans le sens que le monde a envie que ça aille. Ça, c'est une alerte. D'autant plus vigilant. ça va dans l'esprit du monde, ça va là où le monde a envie que ça aille. Soyons d'autant plus vigilants. Et en même temps, l'amour. L'amour au centre. Lorsque nous devons dire les choses, suivons l'exemple de Jésus-Christ. L'amour, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Jésus est venu avec une lumière qui éclaire, cette lumière de la vérité. Mais ce n'est pas la lumière de la vérité toute crue, c'est la lumière de la vérité avec l'amour, avec la grâce. Et nous devons avoir cette même attitude, en même temps d'être capable de dire « ça, ce n'est pas selon la parole de Dieu. Ça, ça ne va pas dans la pensée du Seigneur. » Et en même temps, dire « je t'aime. » Seigneur nous encourage à nous aimer les uns les autres. Et je vous laisse simplement avec petite réflexion. Je ne creuserai pas sur ça aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez remarqué le lien qu'il y a entre la peur et l'amour ? Il nous dit « la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alors peut-être que parfois dans nos relations les uns avec les autres, il y a de la peur. Eh bien, c'est un indicateur pour nous montrer que l'amour n'est pas parfait. Peut-être moi, je fais un truc, etc., puis je vais avoir peur de ce que ma femme va en penser ou va me dire. Je vais dire, ah, ça va mal passer. Eh bien, s'il y a une espèce de crainte, s'il y a quelque chose qui dit, ah, je redoute un petit peu comment... C'est que à un moment ou à un autre, l'amour n'est pas parfait. Et nous pouvons réfléchir à notre amour les uns pour les autres, mais aussi à notre amour pour Dieu, parce que là, il s'agit aussi de notre amour vis-à-vis de Dieu, pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Est-ce que mon amour pour Dieu est suffisamment mûr et abouti pour me tenir devant lui avec assurance et sans crainte? S'il y a de la crainte, c'est que mon amour pour Dieu peut encore faire du progrès et que j'ai besoin de le travailler. On va s'arrêter là, on va prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu nous rappelles de nous aimer les uns les autres. Combien l'amour est central. Et nous avons du mal à ça. Ce n'est pas étonnant parce que l'amour est de Dieu et que c'est seulement si on est né de toi qu'on peut aimer. Seigneur, tu nous as laissés dans ce monde. Nous sommes dans le monde mais pas du monde. Et tu nous as laissés comme des lumières qui témoignent de ton amour en nous aimant les uns les autres. Et en même temps, Seigneur, comme des lumières qui professent la vérité. Aide-nous à tenir sur ces deux lignes. Aide-nous à nous rendre compte, Seigneur, que notre cœur est un terrain dans lequel Satan veut semer des graines d'erreur et de mensonges. Rends-nous vigilants, Seigneur. Et dans cette vigilance, oriente nos cœurs à pratiquer activement l'amour fraternel et autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.